presque c'est le principe du protagoniste aristocratique, c'est-à-dire qu'il est paré de toutes les vertus, il incarne un âge d'or, il incarne d'ailleurs un âge d'or qui est toujours menacé. C'est Athos dans le Vicomte de Bragelonne qui insulte Louis XIV parce qu'il incarne le monde d'avant et que Louis XIV est en train de dégrader tout ce que Athos juge bon et grand dans la noblesse française. C'est le comte de Charny dans Les Mémoires d'un médecin. Donc il y a cette fascination pour la noblesse. Et puis, Dumas est un romancier. Dumas est toujours à court d'argent, donc Dumas doit écrire beaucoup d'histoires, donc il est toujours à la recherche de bonnes histoires, et parfois il n'est pas très regardant, notamment dans Les Mémoires d'un médecin, où en fait Dumas va être le principal conservateur et perpétuateur au XIXe siècle de l'une des thèses contre-révolutionnaires les plus radicales à émerger à la fin du XVIIIe siècle, qui sont les thèses de l'abbé Baruel sur l'influence des Illuminés de Bavière, de la franc-maçonnerie en fait, sur la Révolution française.
Illuminati.
Exactement. Et en fait, ça, c'est les livres de Baruel, ils disparaissent complètement au début des années 1820, ils sont plus réédités, plus personne ne les lit, sauf Dumas et Georges Sand, qui vont découvrir ces thèses, je pense, au hasard de lecture à la Bibliothèque nationale, c'est toujours pas très clair. Et Dumas trouve ça génial. Alors, il est en partie convaincu pour des raisons qui tiennent à l'histoire du mouvement libéral au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire que les mouvements Jeune Italie, la charbonnerie, tout ça fait qu'en fait, quand on est libéral au milieu du XIXe siècle, on a tendance à croire au mythe de la société secrète. C'est la première chose. Oui. Et puis la deuxième, c'est qu'il trouve que c'est une histoire géniale. Et il trouve ça très convaincant, en fait, l'idée que les Illuminés de Bavière aient conspiré contre la Révolution. Et donc, c'est le centre des Mémoires d'un médecin. Et donc, c'est lui qui va maintenir ses idées, va transmettre ses idées, qui vont ensuite repartir à nouveau à la fin du 19e, sous la plume d'Édouard Drummond, qui va vraiment, pour le coup, réinstrumentaliser ça dans une perspective explicitement antirépublicaine.
Et antisémite.
Et antisémite.
Alors, à côté de ces croyances populaires et de ces romans populaires, il y a un genre qui se développe, qui est le genre des mémoires des anciens, de gens qui sont censés avoir approché les victimes de la Révolution. Quelquefois, ce sont des vraies mémoires, quelquefois, ce sont des fausses. Honoré de Balzac en a écrit au moins une. C'est un genre qui va être très populaire et qui va devenir une des pierres de touche des éditeurs de l'époque. Fayard notamment commence à écrire des choses là, à publier beaucoup de mémoires, et ça va accompagner l'essor d'un nouveau type d'histoire.
Complètement. C'est en fait les mémoires connaissent une première phase, une période faste sous la Restauration, à un moment où les gens ont besoin de comprendre, donc tout le monde cherche à avoir des témoignages pour donner du sens à ce qui vient de se passer. Curieusement, au début des années 1880, il y a une deuxième période faste pour les mémoires où plusieurs éditeurs, d'abord Plomb et ensuite Fayard, qui va en fait mettre en place des collections populaires à 1 franc de mémoire, donc en fait augmenter très largement le public des mémoires en le limitant pas seulement, pour le dire simplement, à un public bourgeois aristocratique, qui était le public cible originel. Et dans ces éditions de mémoires, on va voir notamment un appareil, que je n'appellerai pas d'appareil critique, mais la plupart, notamment chez Fayard, ces mémoires sont préfacées et avec des appareils de notes qui insistent beaucoup sur l'anecdote, sur ce qu'on appelle en fait la petite histoire. Et donc il y a un double phénomène. D'un côté, la transmission d'une culture qui va chercher à susciter l'empathie chez le lecteur, c'est-à-dire qu'en racontant l'histoire de la Révolution du point de vue de ses victimes, et de victimes qui se présentent évidemment pas sous leur visage le plus politisé, donc en fait ce sont des victimes innocentes qui sont sacrifiées par le bourreau ou par un peuple barbare manipulé par des révolutionnaires assoiffés de sang. On va voir donc ces textes qui cherchent à susciter l'empathie, et autour de ça un appareil de notes, un appareil critique qui insiste sur l'anecdote, insiste sur la petite histoire, insiste sur le petit bout de la lorgnette, mais qui participe en fait d'une politisation à bas bruit.
On va y venir à la petite histoire, parce que alors donc c'est effectivement quelques exemples que vous donnez. Enfin, Fayard qui est très présent sur le marché de la vulgarisation scientifique et du roman populaire à partir des années 1880, lance une collection qu'ils appellent la Moderne Collection Historique et Anecdotique. Et donc ça, c'est un mélange effectivement de, alors il y a les souvenirs de Léonard qui est censé avoir été le coiffeur de Marie-Antoinette. Il y a à côté de ça, il y a la hache en 1885 qui revendique plutôt l'héritage des Chouans de Balzac et du Chevalier des Touches et qui est franchement gore sur la terreur révolutionnaire. Et donc, il y a la petite histoire, c'est-à-dire que peu à peu, ces ouvrages se parent d'un vernis scientifique grâce à l'appareil de notes dont vous venez de parler, et la petite histoire qui est inventée par quelqu'un qui se fait appeler G. Le Nôtre, G. de la lettre, dont le vrai nom est Louis-Léon Théodore Gosselin, qui va publier des centaines de chroniques dans le temps entre 1899 et 1935, des dizaines d'ouvrages, des pièces de théâtre, dont on dit qu'il a influencé des historiens du XXe siècle comme André Castelot et Alain Decaux. Il est le premier historien vraiment très grand public. Et son idée de petite histoire, il s'inspire de Balzac, en fait. Balzac, dans Les Illusions perdues, disait il y a deux histoires, l'histoire officielle menteuse qu'on enseigne et l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements. Et cette histoire secrète, c'est à la fois l'histoire des complots et, dans le cas de Le Nôtre, l'histoire des petits détails littéralement fétichistes, parce qu'il collectionne aussi des objets censés avoir appartenu à Marie-Antoinette ou à je ne sais qui. Et ces livres vont être des succès de librairie énormes, en se basant aussi sur Dumas. Le vrai Chevalier de Maison Rouge est censé être un livre qui raconte la véritable histoire qu'a raconté Dumas de façon romancée.
Complètement. Bah, c'est un type curieux. Alors c'est même aujourd'hui encore une inspiration qui est revendiquée par exemple par Stéphane Bern ou Laurent Deutsch. Donc en fait, oui. La petite histoire ne disparaît jamais complètement. Ce qui est passionnant avec Le Nôtre, bon, d'abord, c'est qu'il invente un genre. Au début des années 1890, il va publier en 1893 en fait un premier ouvrage sur la guillotine qui raconte du point de vue de leurs derniers jours en fait l'histoire des deux condamnés à mort, notamment à la conciergerie, avec un luxe de détails qu'il construit de deux manières. D'une part, par une fréquentation assidue des archives, parce que c'est vrai, en fait, Le Nôtre cite énormément, va aux archives, et de ce point de vue-là est très précis. Je suis allé vérifier dans des fonds, parce que on a accès à toutes ces sources, donc on voit toutes les notes qu'il a prises, on peut aller voir dans les fonds les cotes correspondantes. Effectivement, c'est une prise de notes extrêmement précise, donc il n'invente rien de ce côté-là. Donc il y a ce travail de source qui est fait. Et puis, en parallèle, il comble les trous avec son imagination. Il vient rajouter un surcroît d'informations pour donner une chair à l'histoire qui aboutit à une forme de processus de reconstitution. Pour moi, c'est un des premiers reconstitutionnistes, un peu comme les gens aujourd'hui qui mettent des uniformes et vont reconstituer des batailles du Premier Empire. Il y a ce même instinct, ce même goût de l'histoire pour la revivre. Mais ce qui est frappant avec Le Nôtre,
c'est entièrement idéologisé en même temps.
Mais oui, mais en fait, ça ne se voit pas. C'est contrairement à d'autres historiens dont on parlera peut-être après. Le Nôtre n'a quasiment jamais pris parti ouvertement contre la République. Cette référence à Balzac, elle est symptomatique. Quand on sait lire entre les lignes, on voit que c'est très contre-révolutionnaire comme influence. Mais en fait, à part son journal qui a été publié après sa mort, dans lequel il y a quelques remarques très acerbes sur la République parlementaire, officiellement, Le Nôtre, c'est une figure de notable des lettres parisiennes. Il écrit dans Le Temps, qui n'est pas un journal, c'est un journal de droite, c'est le grand journal des élites conservatrices de la Troisième, mais ce n'est pas un journal de tradition royaliste ou illibérale. Donc il a cette allure plus lisse que d'autres figures, et en même temps, quand on le lit,
c'est une figure de la guerre culturelle qui est en train de naître. C'est-à-dire que, d'une part, la petite histoire, ce qu'on appelle la petite histoire, va être extrêmement mal reçue par les historiens universitaires spécialistes de la Révolution, tant par ses méthodes que par son orientation politique plus ou moins sous-jacente. D'autre part, il y a un véritable enjeu, l'école obligatoire fait que la mémoire de la Révolution et la notion même d'histoire et de science devient un véritable enjeu politique dans ces années-là. Et d'autre part, la petite histoire va trouver des soutiens à l'Académie française.
Bien sûr.
Beaucoup. Auprès de quelqu'un qui s'appelle Pierre de Nolhac, qui va s'auto-instituer le sauveur du château de Versailles, où plus personne ne va, mais lui va revivifier Versailles et en faire une espèce de théâtre, en fait, de la petite histoire, toujours dans le même optique. Donc on a d'un côté l'université, et de l'autre côté l'Académie française, et les historiens comme de Nolhac ou comme Le Nôtre, qui vont se disputer sur la question de la mémoire et sur la question de la science historique.
Complètement. En fait, à partir des années 1880, le régime républicain se stabilise. On dit que la République a été conquise par les républicains, qui finissent d'ailleurs par donner une interprétation très parlementariste des lois constitutionnelles de 1875. Et progressivement, les républicains vont conquérir certaines institutions, notamment l'université. progressivement, c'est Gérard Noiriel qui montre ça très bien, on voit que l'université se républicanise, qu'elle joue une fonction d'ailleurs dans la constitution d'un savoir républicain et notamment d'un savoir historique républicain, ce qui vient en parallèle du centenaire de la Révolution française qui arrive en 1889, qui est une célébration importante dans laquelle le régime revendique cette filiation, revendique sa généalogie révolutionnaire. Et donc face à cette hégémonie institutionnelle, on voit des groupes s'organiser pour faire survivre en fait des poches de contre-révolution. Donc il y a l'Académie française qui est vraiment un bastion contre-révolutionnaire sous la Troisième République, et le château de Versailles qui pour moi était peut-être l'exemple le plus intéressant à étudier, puisque ce Pierre de Nolhac va réinvestir le musée du château de Versailles, en faire un conservatoire de l'ancien régime, présenté comme le symbole de la douceur de vivre, d'une sorte de monde de luxe, de volupté, qui aurait été détruit, balayé par une révolution française barbare et sanglante, et qui va, en plus de ça, lui publier énormément de livres. Il est assez proche, il évolue dans les mêmes cercles que le nôtre, etc. Donc il y a ce travail éditorial qui vient soutenir Versailles. Ce qui est intéressant, c'est que la République, c'est utiliser certains de ces bastions contre-révolutionnaires, oui, notamment Versailles, qui est instrumentalisé par la République dans les années 1890-1900, à un moment où...
Parce que le pays est entouré de monarchie, en fait.
Bien sûr, mais il y a trois républiques en Europe, Portugal, la Suisse et la France.
Il faut utiliser cette aura...
Il faut tisser des alliances, en fait. Voilà. Et pour tisser des alliances, il faut réussir à casser le système bismarckien qui a été construit dans les années 70-80, notamment avec comme ligne rhétorique de dire « Regardez, la France est à nouveau une république ». Souvenez-vous, la dernière fois qu'ils ont été une république, l'Europe a été mise à feu et à sang. Il faut les isoler. Il faut garder un cordon sanitaire autour de l'Europe. À la fin des années 1880, Bismarck disparaît, perd le pouvoir. Et donc, il y a une ouverture. Dans les années 1890, tout d'un coup, la France républicaine commence à essayer de reconstruire un système d'alliance pour se prémunir contre un éventuel conflit, notamment face à l'Allemagne. Et c'est là que Versailles devient extrêmement utile, puisque toutes les têtes couronnées qui passent en France sont accueillies non pas à Paris, enfin, elle passe par Paris, mais le cœur, le sommet de la réception se passe toujours à Versailles, où en fait la République montre à ses chefs d'État étrangers, à ses têtes couronnées étrangères, qu'elle est capable de se mettre dans les meubles de l'Ancien Régime et que de ce point de vue-là, en tout cas, la République a changé. Paradoxalement, et de manière logiquement, les chefs d'État républicains qui viennent en France, eux, sont reçus à Paris et ne viennent pas à Versailles. Donc il y a une vraie séparation.
Mais alors, ce qui est vraiment intéressant, ce qui résonne vraiment beaucoup aujourd'hui dans cette guerre culturelle, c'est les tenants de la petite histoire sont les tenants d'une histoire vraiment populaire qui se part de scientisme, mais qui ne l'est pas vraiment. Et Brasillac dira plus tard, dans les années 30, dans Je suis partout, il fera un éloge de l'ignorance au nom de cette petite histoire. Hein, quand il dit, j'ai trouvé la citation de votre livre, « Les hommes des croisades, j'en suis sûr, ne savaient pas lire, et pourtant ils participaient à une culture autrement grande et rayonnante que les pauvres êtres d'aujourd'hui. C'est-à-dire, l'ignorance ouvre la voie à la grandeur, alors que la culture peut être un frein. » Et il y a ce débat entre l'université cultivée républicaine laïque et scientifique, en tout cas d'une science qui est en train de se créer, puisque là, c'est les années où la science historique est aussi en train de se créer, et de l'autre côté, une histoire qui se veut scientifique parce que populaire. Comme on le voit aujourd'hui avec les influenceurs et les podcasteurs, qui se revendiquent d'un savoir précisément parce qu'ils ne sont pas experts. C'est sous-tendu par un paradoxe, qui est le paradoxe des royalistes. Il faut faire de l'histoire pour contrer l'idée qu'il existe une histoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on peut revenir en arrière.
Complètement. Mais il y a un peu de... Il y a d'une part une question méthodologique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est frappant avec cette petite histoire, c'est que les prémices sont les mêmes que ce qui se passe à l'université. Tout le monde va aux archives, tout le monde regarde des documents. L'énorme différence, c'est que nos petits historiens manquent une étape qui est clé dans la méthode historique qui est en train de se mettre en place à ce moment-là, qui est la critique documentaire. Évidemment, tous les historiens vont voir des documents, mais la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a des documents, c'est qu'on les critique, on ne les prend pas systématiquement pour argent comptant. On contextualise, on analyse, on croise, et eux, ils font pas ça, en fait. Le nôtre, pour lui, le document est un morceau d'histoire, est un morceau littéralement du passé, et en juxtaposant des morceaux de passé, on peut, presque par une opération magique, ressusciter le passé. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que dans les années 1900, 1910, et surtout dans les années 1920, on va voir émerger une histoire autour de l'Action française, qui, elle,
voilà,
pour le coup...
C'est là où je voulais en venir.
Exactement.
Et donc là, le grand changement qu'introduit Maurras dans ce débat, à partir de sa lecture d'Hippolyte Taine, donc est un des grands contre-révolutionnaires, ça va être de dire qu'en fait, on ne peut plus revenir, on ne peut pas revenir au passé, mais on peut... il y a dans le... En fait, l'histoire, c'est l'étude des lois des nations qui ne changent pas. Et donc, il y a quelque chose que le temps n'atteint pas, c'est l'identité profonde du pays, le fameux pays réel contre le pays légal. Et donc, on va trouver... le roi n'est plus le roi du passé, mais c'est le roi qui sera à même d'exprimer le mieux les tendances nationalistes profondes du pays. Et c'est la grande invention de Maurras, c'est cet alliage du nationalisme et du royalisme qui normalement ne vont pas ensemble.
Non, mais en fait, qui au début, d'ailleurs, sont dans les années 1880-90, le nationalisme vient au contraire complètement reconfigurer le champ politique à droite, et en fait, c'est plutôt un moment où le royalisme décline extrêmement rapidement, la contre-révolution politique, on le disait au début, est atomisée, et c'est toute la singularité de l'opération maurrassienne, c'est d'arriver à d'un côté proposer une hypothèse nationaliste et faire une proposition nationaliste qui vient s'enraciner, réinventer un héritage contre-révolutionnaire dont il essaie de montrer rétrospectivement qu'en fait la contre-révolution aurait toujours été nationaliste parce que un nationaliste cohérent ne peut être que monarchiste dans son esprit, parce que les rois ayant construit la France, eh bien, si on est nationaliste, on est pour ceux qui ont construit la France. Donc on est pour l'idée de restaurer la monarchie. Et là, il y a deux choses qui vont s'exprimer. D'une part, il y a cette idée qu'il est possible de renverser la décadence, cette idée qui est déjà très présente chez Taine, et que la restauration de la monarchie serait la seule manière, en passant par les institutions, de renverser le déclin de la France qui aurait commencé en 1789, c'est la première chose. Et la deuxième, il y a une obsession historiciste, c'est-à-dire l'idée que les lois de l'histoire ne demandent qu'à être décodées, et que le vrai travail de l'historien, c'est pas du tout d'identifier les changements et les mutations, c'est d'identifier la permanence. Et qu'en fait, en maîtrisant cette permanence, on identifiera le moment décisif pour agir. Et ça vient construire... Au départ, évidemment, le magistère intellectuel de Maurras, et puis surtout dans les années 20, ça va, au moment où l'image de Maurras commence à être un peu fragilisée, notamment voire très abîmée auprès du public catholique, après l'excommunication, la condamnation de l'Action française et l'excommunication de ses chefs, ça va aussi construire le magistère d'autres figures proches de Maurras, comme Jacques Bainville, comme Pierre Gaxotte, qui sont ultra dominants dans le champ médiatique et historique dans l'entre-deux-guerres. Et
Pierre Gaxotte, il faut en dire deux mots, et il faut dire deux mots de Fayard, parce que Fayard joue un rôle stratégique là-dedans.
Fondamental.
Il publie des livres, c'est eux qui publient Louis Dimier aussi, non ?
Oui, tout à fait.
Les origines de la France contemporaine, qui est une histoire et, de la contre-révolution, qui lie complètement histoire et contre-révolution, et qui est un tabac de librairie, qui est un vrai succès de librairie. Et qui justifie aussi, il me semble, la violence, enfin, la possibilité de la violence qui va jouer un rôle dans le 6 février, dans les émeutes du 6 février 34 de l'extrême droite. Et puis il y a Pierre Gaxotte, effectivement, que Fayard nomme à la tête de Candide, un des grands journaux qui deviendra l'un des porte-voix du vrai fascisme français et qui est totalement antisémite pour le coup, et puis plus tard il y a l'histoire de France de Jacques Bainville qui est là aussi un phénomène éditorial qui ne s'est jamais démenti. Vous dites que le livre s'est tiré à 70 000 exemplaires en 24 et à 300 000 en 1970.
C'est colossal. Mais c'est ce qui est passionnant.
Tout ça est chez Fayard.
Alors
mémorielle
en fait, Fayard joue un rôle passionnant. C'est une maison d'édition donc historiquement conservatrice, avec des proximités. Artem Fayard est assez proche de Léon Daudet. Il est proche de Pierre Gaxotte pour des raisons familiales. Et au début des années 1920, il cherche à s'ouvrir à nouveaux publics. Et donc, il va, en 1924, confier à Gaxotte, qui à ce moment-là est un jeune homme, il a 29 ans. Il fait partie, en fait, de la deuxième génération d'Action française. Contrairement à la plupart des hommes de cette deuxième génération, il n'a pas été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il avait une tuberculose osseuse. Donc, il a été, en fait, le secrétaire nocturne de Maurras pendant la Première Guerre mondiale. 1929, c'est un jeune prof d'histoire qui veut quitter son métier. Et donc, Fayard lui confie Candide, qui vient jamais à proprement parler fasciste. Hein. Candide reste maison commune de toutes les extrêmes droites.
C'est plus tard, c'est Je suis partout.
C'est Je suis partout, qui est aussi fondé par Fayard.
Et que Gaxotte va diriger.
Et va diriger, et qui là va être au cœur de la dérive fasciste dans les années 30 de tout un ensemble de jeunes maurrassiens dont Gaxotte va être le mentor. Et donc Gaxotte va jouer un rôle double, en fait, puisque ça va être à la fois être un intermédiaire, un homme double, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui publie et quelqu'un qui c'est quelqu'un qui devient prescripteur dans le goût historique, si je puis dire, à droite et à l'extrême droite, et qui va construire cette collection des grandes études historiques, dont le grand lancement va être l'Histoire de France de Jacques Bainville, qui est un immense succès de librairie en 1924 et qui va être suivi ensuite dans les années qui suivent par toute une série de titres qui vont avoir des succès énormes, dont La Révolution française de Gaxot en 28, qui vont imposer ce qu'on a appelé l'historiographie capétienne. C'est René Grousset, un historien belge, qui a qualifié ce courant historiographique de cette manière, qui, dans le champ médiatique et politique dans l'entre-deux-guerres, va avoir un rôle colossal à droite, en fait. Ça, oui, ça va ça. Être vraiment la vulgate historique.
Dans l'opinion populaire,
en bien fait. Sûr. Ah ben bien sûr, mais ça va vraiment être le... Et c'est la maison commune intellectuelle de toutes les droites. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient la vulgate, c'est le nouveau relais de l'influence de l'Action française dans l'entre-deux-guerres, passe moins par le quotidien et par l'œuvre de Maurras elle-même que par la production historiographique qui est qui sort de la nébuleuse maurassienne.
Et c'est la victoire des historiens de la petite histoire contre la République et contre l'université d'une certaine façon. Mais certains sont vraiment historiens. Pour
alors, bah, même quelqu'un comme Gaxot a une formation d'historien. Il est agrégé. Il s'arrête au milieu de sa thèse. Mais enfin, c'est quelqu'un qui est passé par l'École normale supérieure, qui maîtrise, disons, les règles de la méthode historique. Alors, je dirais pas que c'est un triomphe de la petite histoire parce que c'est pas ces historiens. Ce ne sont pas exactement des petits historiens. Ouais. Ils participent tous de la même nébuleuse contre-révolutionnaire. À la mort de Lenôtre, l'Action française va lui rendre un hommage vibrant. Mais quand on regarde Gaxot ou Bainville ou n'importe quel autre des auteurs des grandes études historiques, on voit que ce sont des livres qui sont beaucoup plus pensés comme des essais de synthèse historique, qui défendent des thèses très claires, sans jamais d'ailleurs les exprimer ouvertement. Il n'y a pas une préface ou une introduction au début qui dit « voilà mon idée ». Mais en fait, on les lit et la thèse surgit. Donc, pour Gaxot, c'est l'idée que la Révolution française a été provoquée par des forces étrangères qui sont à nouveau à l'œuvre dans l'entre-deux-guerres parce que la révolution bolchevique aurait donné un nouvel élan à l'esprit révolutionnaire. Dans le cas de Jacques Bainville, c'est l'idée que la nation française aurait toujours été menacée par deux adversaires, un peu de manière permanente, les Allemands et les Germains devenus Allemands et les Anglais, donc que la nation aurait été construite par les rois. En fait, on retrouve toujours des thèses comme ça très claires, très lisibles, soutenues par une vraie érudition, qui est arsenalisé hein, pour défendre ses idées, et une plume limpide, à la différence de Maurras, qui est assez objectivement illisible. Gaxot, Bainville sont des auteurs extrêmement faciles à lire.
Toute cette armature d'historien, enfin, qui crée quand même l'Institut d'Action française, l'Institut d'enseignement supérieur contre-révolutionnaire, et qui publie des ouvrages populaires. On parle toujours de la gauche gramsciste, l'idée que la gauche aurait gagné le combat de la culture dans les 60-70. Mais en fait, dans ces années-là, on a l'impression que l'extrême droite française en tout cas, gagne la guerre culturelle, au moins dans les années 30.
Complètement. Alors, j'ai pas cité Gramsci dans le livre, mais que c'est vrai que là, en plus, j'ai écrit ce livre à un moment où cette question du gramschisme de droite, de gauche a ressurgi dans le débat public, hein, avec la manif pour tous et tout. Ça a été un moment où Gramsci a été beaucoup relu. J'avais un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en le citant, mais c'est certain que dans l'entre-deux-guerres, il y a un moment où on voit la culture contre-révolutionnaire s'imposer à la droite et plus généralement s'imposer en fait sur le marché éditorial en France. C'est-à-dire qu'il y a une vraie domination de ces auteurs, de ces thèses qui sont reprises dans des partis de droite qui sont théoriquement républicains et qui en fait sont dans une phase, notamment la Fédération républicaine qui est le grand parti conservateur de l'entre-deux-guerres qui évolue vers l'extrême droite au cours des années 1930. Et je pense que c'est indissociable de ce phénomène éditorial qui est porté par l'Action française, Fayard, des hebdomadaires comme Je suis partout, comme Candide, comme Gringoire aussi, que j'évoque un petit peu moins, mais qui est aussi présent dans cette nébuleuse.
Votre thèse va contre l'idée de Marcel Gauchet et d'autres qui disent qu'à partir des années 1880, le royalisme disparaît. Ce que vous dites, c'est qu'il ne disparaît pas, qu'il change, qu'il devient culturel, vraiment, en fait. Et que finalement, à partir des années 30, il va y avoir une sorte d'alliance. En 1931, Pierre de Nolhac, donc le sauveur auto-institué de Versailles, qui est décrit comme fasciste par l'hebdomadaire Gringoire, répond « L'idée me réjouit, ça me rajeunit ». Donc il va y avoir vraiment... les royalistes ont une relation complexe avec le fascisme, mais globalement, c'est aussi Gaxot qui va inventer la notion de révolution nationale dès 1934, donc bien avant Pétain, en fait.
Alors il la reprend à Georges Valois, mais il lui redonne un écho. Mais Georges Valois, qui lui aussi s'est écrit comme fasciste, est aussi passé par l'Action française, même si c'est brouillé avec Maurras à un moment. Alors je dirais, les royalistes ont une relation ambivalente avec le fascisme, les contre-révolutionnaires qui englobent, ouais, en fait... plus de gens, puisqu'il y a aussi des gens qui acceptent le principe du régime républicain en détestant les origines. Moi, j'ai été frappé par l'empreinte de la contre-révolution dans le cas du fascisme français. J'irai pas discuter du nazisme ou du fascisme allemand, même si j'ai mon idée là-dessus, mais parce que c'est des débats qui se configurent différemment. Mais dans le cas de la France, je trouve que c'est plus qu'une imprégnation contre-révolutionnaire du fascisme français, c'est que d'un point de vue... presque généalogique, dans la manière dont les fascistes français se construisent, l'empreinte de la contre-révolution est décisive, en fait. Et il y a, chez beaucoup de fascistes français, on parlait de la rédaction de Je suis partout, c'est-à-dire des hommes comme Robert Brasillac, Lucien Rebatet, etc., quasiment tous sont passés par l'Action française, se sont éloignés de l'Action française, qu'ils estimaient que l'Action française n'était pas capable de réaliser le programme contre-révolutionnaire qu'elle défendait, qu'il n'y avait pas, notamment... la volonté, en fait, d'aller au bout, de faire ce coup de force dont parlait Maurras. Et donc, le 6 février 1934, de ce point de vue-là, marque une vraie rupture parce que Maurras est vu comme étant incapable de passer à l'acte. Et donc, le fascisme est vu comme étant le courant politique qui va permettre de réaliser pleinement la contre-révolution. Mmh. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est absolument frappant. Et c'est ce que j'essaie de montrer justement que la contre-révolution, même si elle n'existait plus vraiment dans l'ordre politique en tant qu'un parti légitimiste constitué comme tel, eh bien, elle existait toujours dans l'ordre culturel et qu'on ne comprenait pas, en fait, le régime de Vichy, qui est l'aboutissement de celui-ci, sans comprendre la permanence de la contre-révolution sous la Troisième République.
Voilà, Le Roi, une autre histoire de la droite pour comprendre la France et pour comprendre le moment aussi qu'on est, enfin, en toile de fond du moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui, par Baptiste Roger Lacan. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Empty the catapult, hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait.
Sur France Culture.
Sophie n'est pas une petite fille modèle, c'est plus fort qu'elle. De drôles d'envies traversent tout le temps son esprit et la poussent à faire bêtise sur bêtise. Est-ce qu'elle le fait exprès?
C'est une poupée! J'en étais sûre!
Fais attention, tu vas la faire fondre!
Je vais tellement bien la soigner que je ne la casserai jamais. Oh non!
Malheur, Sophie.
Les malheurs de Sophie par la comtesse de Ségur. Réalisation Sabine Zovigian.
Un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
DAB+, DAB+.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
Et tout de suite, une histoire particulière.
La bête choisie, vise et légende travestie. Un documentaire de Camille Desombes réalisé par Gilles Blanchard. Second épisode, la fabrique d'un mythe.
Nous sommes ici dans le salon de musique de la bibliothèque de l'Arsenal, qui est situé à Paris dans le 4e arrondissement et qui est un des départements de la Bibliothèque nationale de France. C'est une bibliothèque qui a une histoire très longue, puisque en tant que bibliothèque, son histoire commence au milieu du XVIIIe siècle, quand le marquis de Pomy, le plus grand bibliophile de son époque, s'installe ici avec ses livres. Et en tant que bâtiment, c'est une histoire encore plus ancienne, puisque notre bâtiment, c'est l'ancien hôtel des grands maîtres de l'artillerie qui dirigeait l'arsenal royal de la mi-16e siècle jusqu'à la mi-18e siècle.
Dans l'épisode précédent, nous avons raconté la vie rocambolesque de François Timoléon de Choisy, abbé de cour durant le règne de Louis XIV, historien, écrivain religieux et ambassadeur au Siam. Depuis le XVIIIe siècle, l'histoire raconte qu'il aurait vécu habillé en femme sous les noms de comtesse des Barres, puis Madame de Sancy, séduisant ainsi des jeunes filles qu'il déguisait en hommes. Pourtant, la légende de l'abbé travesti et libertin, qui reposait jusqu'alors sur ses mémoires et des nouvelles anonymes publiées après sa mort, fait aujourd'hui l'objet de multiples hypothèses, complexes et parfois contradictoires. Comment déceler le vrai du faux dans ce récit aux airs de conte?
Du point de vue des manuscrits, donc j'ai sorti les quatre manuscrits qui ont été donnés par l'abbé de Choisy, les papiers de l'abbé de Choisy, qu'il a transmis vraiment à la toute fin de sa vie à son arrière-petit-neveu, le marquis d'Argenson, lequel marquis les a ensuite transmis à son fils, le marquis de Pomy, donc le fondateur de la bibliothèque de l'Arsenal.
Fabienne Quérou, conservatrice.
Ce sont pratiquement les seuls témoignages manuscrits de l'histoire de l'abbé de Choisy. Et donc, le marquis d'Argenson, qui a récupéré ses manuscrits, on voit ici son ex-libris. Et il y a une petite note qui est collée en tête du premier volume, donc sur le plat. Note de la main de feu Monsieur le Marquis d'Argenson, qui dit « Ces ouvrages de l'abbé de Choisy m'ont été remis après sa mort et sont tirés d'une quantité de papier inutile qu'il avoit négligé. Mon dessein est toi qu'ils ne sortissent point de mon cabinet. Mais parmi quelques personnes à qui je n'ai pu refuser d'en donner lecture, il y en a qui ont pris sur elles, à mon insu, de donner au public la plus grande partie de ces mémoires, dont ceci est donc l'original. Et puis, un petit peu plus bas, l'abbé d'Olivet, son ami, croit que l'auteur avait fini les mémoires pour l'histoire de Louis XIV et qu'il brûla un an devant que de mourir, ce qui manque ici.
Ça, c'est le tome 2 des manuscrits de l'abbé de Choisy, donc le volume 3187. Est-ce que vous pouvez aller à la page 9 et 10, s'il vous plaît?
Voilà.
Et donc là, c'est le passage qui fait état de sa jeunesse, il me semble, et de la façon dont sa mère le travestissait. Et alors, je vous demandais d'aller là, parce qu'il y a récemment un historien américain qui s'appelle James Johnson, qui s'est intéressé à ces deux pages, donc la 9 et la 10, et qui constate qu'elles sont très irrégulières par rapport au reste du livre, puisque l'écriture paraît beaucoup plus dense. Alors lui, son hypothèse était qu'elles avaient été ajoutées a posteriori.
C'est tout à fait possible, il faudrait vérifier en regardant le papier, mais en tout cas ce qu'on constate ici, à la page 10, vous voyez, il y a un ajout, il y a un morceau de papier qui est collé, c'est pas la même écriture, donc il y a eu une deuxième rédaction, ça c'est évident, ça arrive à d'autres endroits dans le manuscrit d'ailleurs. C'est une écriture de secrétaire, une belle écriture assez lisible, je dirais, de professionnel, de secrétaire professionnel. Voilà, et ici, vous voyez, on a une rature, on a une correction d'une autre main, qui est peut-être celle choisie, on ne sait pas. Et effectivement, on a ici un ajout, écrit sur une feuille collée sur la première feuille. L'écriture change ici, mais elle change à nouveau ici. Donc, du point de vue, ce qu'il faudrait faire, il faudrait examiner le papier pour voir si c'est le même papier. Au toucher, c'est pas vraiment flagrant. En tout cas, on a l'impression que c'est un feuillet qui a été ajouté. Parce que vous voyez, regardez, ici, vous voyez la petite bande de papier qui court tout du long dans la reliure. On a inséré cette petite bande de papier sur laquelle on a collé cette page. Et d'ailleurs, ça concerne aussi la page suivante. Donc c'est un montage, mais qui a parfaitement pu être fait au moment de la reliure. Et c'est une feuille qui faisait probablement partie du manuscrit, mais qui était peut-être détachée. Et donc, qu'on a ajouté. C'est difficile de dire à quel moment ça a été fait, en tout cas.
Il y a ce long manuscrit dans les archives, Mémoire pour servir l'histoire de Louis XIV. Et c'était un manuscrit de 386 pages.
James Johnson, historien de la culture.
Il y a une page plus foncée dans ce manuscrit qui n'est pas comme les autres pages. Il y a des charnières indiquant que cette page a été insérée. Il y a beaucoup plus de lignes de texte au recto et au verso dans le manuscrit sur cette page. Beaucoup plus de lignes de texte que des autres pages de volume. Et l'écriture sur cette page commence plus haut sur la page, ce qui permettrait d'insérer davantage de texte tout en préservant la continuité des lignes finales avec des pages précédentes et suivantes. OK, pourquoi est-ce que ça est intéressant et important? C'est parce que cette page, que je pense a été insérée, contient la seule référence dans cet ouvrage au travestissement de Choisy. C'est-à-dire, il constate que sa mère l'avait habillé en fille lorsqu'il était jeune. Et le contenu correspond à une phrase à le manuscrit de la comtesse des Barres. Donc, c'est sur cette page insérée, c'est la seule référence dans un ouvrage véritablement écrit par Choisy qui confirme un détail dans ce que je crois être une autobiographie imaginaire. Ça établit un lien entre cette histoire et ces, selon moi, des romans sur la comtesse des Barres et Madame de Sancy.
Et alors, qui, selon vous, pourrait avoir introduit ou modifié ces pages?
Selon moi, je pense que c'est Pierre-Joseph d'Olivet, c'est-à-dire l'homme qui a écrit cette biographie supposée, qui a établi le lien entre l'abbé de Choisy et le manuscrit anonyme de la comtesse des Barres, qui a été aussi, je crois, publié par Pierre-Joseph d'Olivet pour discréditer l'abbé de Choisy. Et dans les mémoires du marquis d'Argenson, le marquis d'Argenson dit qu'après la mort de l'abbé de Choisy, Pierre-Joseph d'Olivet a volé les manuscrits qui appartenaient à l'abbé de Choisy. Donc, pour moi, se dit que Olivet avait dans sa possession les manuscrits et avait la capacité, je crois, d'insérer une page dans le manuscrit pour établir un lien entre l'histoire de Louis XIV dans le manuscrit et le comtesse des Barres, cet autre manuscrit. Je crois qu'il a bien écrit ces manuscrits, c'est-à-dire avec narrateur masculin qui s'est travesti en femme. Je crois qu'il a écrit ces manuscrits comme un type de, je ne sais pas, autobiographie imaginaire. Je pense que c'est probable qu'il ait s'habillé en femme en privé, mais non en public. Et je crois que l'idée moderne, selon laquelle Choisy vivait ouvertement et était toléré en tant qu'homme vêtu comme femme, est improbable.
Pour James Johnson, l'abbé de Choisy, travesti en privé mais non en public, aurait bien écrit la comtesse des Barres et Madame de Sancy, mais comme des vies fantasmées et confidentielles. Selon cet historien, c'est le très pieux et rigoriste abbé d'Olivet qui aurait rajouté les pages sur le travestissement de Choisy dans les mémoires de ce dernier, puis aurait forcé la parution de la comtesse des Barres. Son but, révéler la face cachée et immorale de son ancien ami, qui aurait évoqué sans remords en privé sa passion pour les vêtements féminins.
Alors les avis aujourd'hui, mais je dirais aujourd'hui pour la première fois, sont clairement partagés.
Frédéric Charbonneau, professeur d'histoire littéraire française.
Pendant très longtemps, depuis leur première publication, jusqu'au milieu du XXe siècle au moins, peut-être même au-delà, ils ont été pris pour argent comptant. Ça peut paraître étonnant étant donné le caractère improbable de certaines scènes, mais ils ont été pris au sérieux. On le voit, disons, chez D'Alembert, par exemple, qui en parle au milieu du XVIIIe siècle comme d'un fait certain. On est face à des textes qui présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent expliquer cette foi qu'on leur a apportée. La première, peut-être, c'est que juste avant la publication de l'histoire de la comtesse des Barres, 2 ans avant, est mort un abbé de cour qui s'appelait l'abbé d'Entragues, dont le duc de Saint-Simon fait un portrait délectable dans ses mémoires. C'est à peu de choses près un contemporain de l'abbé de Choisy. Or, l'abbé d'Entragues se vêtait en abbé, mais, dit Saint-Simon, fort singulièrement, à la limite entre la robe de l'abbé et la robe de la dame. Comme l'abbé de Choisy, donc, il est mort octogénaire, tourmenté par le jeu, et le parallélisme est quand même assez frappant. Et il suggère 2 choses. Il suggère d'une part que on a pu s'inspirer de l'abbé d'Entragues pour recomposer une vie de l'abbé de Choisy sur le même modèle. Mais il explique en même temps qu'on ait cru à cette vie comme à une chose authentique, qu'on en avait eu sous les yeux un exemple bien connu peu de temps avant. Il y a d'autres facteurs qui expliquent qu'on ait pris ça au sérieux. C'est le témoignage du petit-neveu de l'abbé de Choisy, le marquis d'Argenson, qui était le légataire de ses papiers et qui, dans des essais de type autobiographique, disons, à la fin du siècle, confirme que l'abbé venait lui faire ses confidences et lui avait laissé les portefeuilles manuscrits où se trouvent les 5 fragments qui composent l'histoire de la comtesse des Barres et l'histoire de Madame de Sancy. Et ce témoignage de D'Argenson paraissait hors de tout doute. Or maintenant, quand on retourne dans les archives, ce dont on s'aperçoit, c'est que d'une part, les portefeuilles manuscrits qui sont conservés à la bibliothèque de l'Arsenal sont à ce point de plusieurs mains qu'il est difficile de déterminer quelle est la part qui revient à Choisy. Et d'autre part, le texte d'Argenson est lui-même un texte composite, comme il y en a énormément dans l'univers des publications mémoriales autour de la Révolution française en particulier, un peu avant et un peu après. On fabriquait des textes à partir de fragments qui avaient été conçus autrement. Et donc, on ne sait plus très bien quelle est la créance qu'il faut accorder au témoignage d'Argenson. Toujours est-il que quand on regarde l'argumentaire de Dirk van der Kroes, par exemple, dans la biographie de Choisy qu'il a publiée à la fin du XXe siècle, l'abbé de Choisy androgyne et mandarin, on s'aperçoit que tous les arguments favorables à la créance qu'on pourrait porter à ces textes comme des témoignages autobiographiques reposent sur des publications anonymes, des publications clandestines, des publications posthumes et des textes composites. Et donc, on se retrouve avec des bases très fragiles, finalement. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça devient difficile d'affirmer quoi que ce soit.
D'autres hypothèses concernant la véracité du travestissement de Choisy vont encore plus loin. Cette dernière décennie, un article de Jean-Yves Vialeton, spécialiste de la littérature française des XVIe et XVIIe siècles, a particulièrement semé le trouble. Le chercheur y affirme que la légende de l'abbé travesti reposerait sur une complexe mystification littéraire
et va jusqu'à remettre en question l'authenticité de l'ensemble des textes liés au travestissement de Choisy, y compris les mémoires qui lui sont attribuées, et le témoignage de D'Argenson, les présentant comme de pure fabrication.
Si on regarde les témoignages qui concernent Choisy de son vivant, aucun témoignage ne permet de dire que Choisy a eu une vie déréglée. Ni Archives de la Bastille, ni chansons satiriques secrètes, ni mentions dans les mémoires. Saint-Simon en parle et ne mentionne pas ça. Alors qu'en revanche, eh bien, il y a bien d'autres abbés qui, à la même époque, ont créé le scandale. L'abbé d'Entragues, par exemple, était effectivement un abbé qui se déguisait en femme. Et Saint-Simon raconte cette singularité. D'autre part, les archives de la Bastille montrent que des ecclésiastiques aussi pouvaient fréquenter les prostituées, se lancer dans des dragues homosexuelles, etc. Mais pour Choisy, il n'y a rien de tout ça. Et la carrière même de Choisy, il dédie ses livres au roi, il est protégé par Bossuet, par Madame de Maintenon, il est élu à l'Académie française. Tout dans sa vie montre qu'il ne pouvait pas mener cette vie-là. L'abbé d'Entragues a mené cette vie-là, mais il a dû s'enfuir deux fois en exil. Donc on risquait l'exil, la Bastille, ça n'est pas du tout le cas de l'abbé de Choisy. En fait, l'idée que l'abbé de Choisy ait pu être un libertin déguisé en femme et profitant de ce déguisement en femme pour séduire des toutes jeunes filles, c'est une idée qui naît après sa mort et qui naît principalement dans un livre qui s'appelle « La vie de l'abbé Choisy » publié donc en Suisse en 1742, qui raconte la vie de l'abbé de Choisy en travesti.
Du point de vue des ouvrages imprimés, j'ai essayé de me concentrer un peu sur les sources de l'histoire de l'abbé de Choisy. Donc je vous ai apporté la biographie de l'abbé de Choisy qui a été publiée anonymement, première édition en 1742, deuxième édition en 1748. Donc c'est celle-ci. Vous voyez le titre en rouge et en noir, La vie de monsieur l'abbé de Choisy de l'Académie française. Une mention manuscrite en dessous qui donne l'auteur supposé, puisqu'elle a été publiée anonymement, donc par l'abbé d'Olivet. La mention de publication à Lausanne et à Genève, donc 1748.
Et donc on voit qu'elle a été publiée à l'étranger, ce qui laisse penser qu'il s'agit plutôt de littérature clandestine ou interdite en France.
C'est probablement une véritable adresse. On a parfois, même souvent, des ouvrages qui paraissent avec une adresse à l'étranger, mais qui sont en fait publiés en France de manière tout à fait clandestine. En fait, il faut savoir que pour publier, il faut une autorisation. Il faut donc que les ouvrages soient lus par des censeurs. Pour un ouvrage comme La vie de l'abbé de Choisy, qui comporte des passages jugés un peu scandaleux, voire des allusions politiques, effectivement, il vaut mieux viser peut-être une publication à l'étranger.
On avait à l'époque du pouvoir que sur la littérature autorisée, celle qui était publiée en France. Mais on n'avait aucun pouvoir sur la littérature qui était publiée à l'étranger et qui était souvent une propagande violente, bon, contre le catholicisme, contre la France. Et souvent, la mention d'une adresse étrangère avec un nom un peu altéré faisait comprendre à l'acheteur qu'il avait justement affaire à un livre séditieux et donc intéressant. Ce qu'on appelait à l'époque la littérature philosophique, ça n'était pas du tout à prendre au sens dans ce sens-là, parce que sous le terme de littérature philosophique étaient publiés effectivement des textes libertins, des textes diffamatoires et puis même des textes pornographiques. Mais quand ils étaient fabriqués en France, ils étaient évidemment fabriqués avec une fausse adresse, avec un nom d'éditeur qui était un nom d'éditeur étranger, de façon à ce qu'on ne puisse pas arrêter et pendre l'imprimeur. Mais il y avait des villes qui étaient spécialistes des fausses éditions étrangères. Bon, Rouen, par exemple. La littérature séditieuse est énormément lue au XVIIIe siècle. Et il y a de véritables best-sellers qui sont des livres interdits, mais qui entrent en France clandestinement et qui sont largement vendus. Et La vie de l'abbé de Choisy est justement publiée à l'étranger. Toutes les éditions qui diffament Choisy sont des éditions hollandaises, Utrecht, Amsterdam, Genevoise, de Lausanne. Et donc ce sont des bastions du protestantisme et surtout des endroits qui sont colonisés, pour ainsi dire, par tous les protestants qui ont quitté la France avant même, d'ailleurs, la révocation de l'édit de Nantes. C'est eux qui cherchent des copies en français pour faire fonctionner le commerce de l'édition, c'est eux qui corrigent. Et donc du coup, ils participent d'une propagande qui est une propagande anticatholique et d'une propagande aussi qui est anti-française dans la mesure où ils sont dans des pays qui se retrouvent, pour la Hollande par exemple, et ennemis de la France.
La Bétoisie est une cible parce qu'il représente, comment dire, la défense du catholicisme sous Louis XIV et qui est donc, il s'agirait d'une sorte de vengeance suite à la révocation de l'édit de Nantes.
Il fait partie de la mouvance de Bossuet. Il a défendu dans ses textes la douceur avec laquelle Louis XIV s'était libéré du problème protestant. Il a popularisé dans les quatre dialogues, des positions qui sont celles exprimées de façon plus savante par Bossuet. Et puis, il est majoritairement un écrivain religieux. Son histoire de l'Église, ses vies pieuses, c'est une sorte de militant qui milite pour une christianisation, justement, des élites. D'autre part, il est proche de Bossuet, de Madame de Maintenon. Donc, c'est une figure du catholicisme du XVIIe siècle. Et comme tel, c'est une cible.
Quelles pourraient être les recherches futures qui pourraient nous aider à démêler le vrai du faux de cette histoire ?
Il me semble que ces manuscrits mériteraient une étude vraiment codicologique, une étude très précise et une comparaison très précise aussi avec les éditions. Je pense qu'on a besoin de revenir sur la tradition du texte, la façon dont ce texte est transmis dans sa version manuscrite et aussi dans ses versions imprimées. Et l'étude matérielle des manuscrits, je pense, serait vraiment très utile, notamment pour tout ce qui concerne précisément les ratures, les corrections, les ajouts.
Une autre chose qui me semblerait capitale serait savoir exactement la manière dont s'est constitué le fond de l'arsenal. Ce fond de l'arsenal apparaît comme extrêmement authentique puisque les papiers de l'abbé de Choisy ont été légués à D'Argenson, le ministre de Louis XV. Et donc, du coup, les papiers qu'on a à l'arsenal actuellement peuvent sembler être des papiers qui donnent des preuves irréfutables. Or, il se trouve que, enfin, mon point de vue, c'est qu'en fait, les papiers de l'arsenal sont reconstitués d'après justement la légende de l'abbé de Choisy. C'est ce qui fait qu'on trouve dans ce fond des choses qui ne sont pas de l'abbé de Choisy, mais qui ont un rapport avec le travestissement.
Alors, on pourrait essayer de se livrer à des entreprises de datation de ces manuscrits. C'est pas forcément très compliqué. On peut faire des analyses chimiques du papier, de l'encre, etc. pour parvenir à une datation plausible.
Mathieu Brunet, spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle.
En fait, moi je suis pas persuadé que ça résoudrait complètement les problèmes. Imaginons par exemple que ces papiers ou ces manuscrits soient identifiés comme datant d'une période postérieure à la mort de Choisy. Est-ce que ça serait un argument forcément suffisant pour dire bah donc c'est bien la preuve que c'est pas Choisy qui les a écrits ? Non, parce que bah il y a des pratiques de copie qui sont fréquentes et que donc bah rien n'empêche de penser que ces manuscrits que nous conservons aujourd'hui soient des copies postérieures de manuscrits précédents qui auraient disparu. Voilà, c'est tout à fait possible. On pourrait aussi comparer la graphie de ces manuscrits à la graphie d'autres manuscrits attribués de façon certaine à Choisy, pour voir si c'est la même main. Mais là encore, évidemment, ça serait très peu probant parce que la pratique des secrétaires est extrêmement fréquente et que plusieurs secrétaires sont susceptibles d'avoir rédigé, recopié, mis au propre des manuscrits de Choisy. Donc en fait, je pense que c'est assez difficile et que c'est pas forcément une voie très prometteuse pour résoudre ce mystère.
Autobiographie authentique ou autofiction fantasmée, dénonciation de l'abbé d'Olivet ou moquerie des protestants pour discréditer le règne de Louis XIV, le mystère du travestissement de Choisy demeure entier. Vrai ou fausse, l'histoire de l'abbé travesti continue de faire parler d'elle 300 ans après la mort de l'intéressé, révélant les tensions et fascinations que suscitent les transgressions de genre à travers les époques.
Ça fait partie de cette question d'identité. Comment est-ce que les personnes maintenant, mais les personnes de le passé, comment ils sont façonnés, son identité, quels étaient des obstacles de vivre l'identité qu'elles se supposaient.
James Johnson.
Quelles étaient les possibilités pour imaginer d'autres identités et essentiellement quelles sont des structures sociales et politiques qui limitent ou permettent une personne de vivre en vérité avec son identité perçue. Je crois au XVIIe siècle, il y avait des obstacles pour des personnes comme l'abbé de Choisy. Et donc, c'est un long changement depuis le XVIIe siècle où des barrières lentement changent pour permettre des personnes de vivre leur vraie identité.
Ces textes qui fascinent tant, ils touchent à quelque chose d'assez central dans l'organisation sociale, qu'est la binarité des genres, enfin l'opposition masculin-féminin. Chacun de ces textes font en quelque sorte exploser cette opposition binaire au profit d'une fluidité de genre qui serait présentée comme beaucoup moins hypocrite, comme beaucoup moins fausse, que la binarité, que les structures sociales, les représentations sociales construisent comme la norme. C'est exactement ce que font les personnages de drag queen. Tout le monde sait qu'une drag queen est un garçon qui s'habille en femme et dont le costume est de façon délibérée et systématique un costume extravagant, un costume qui pousse à l'extrême des codes qui sont ceux du vêtement féminin, de façon à montrer à quel point ces attributions de genre masculin et féminin sont des constructions, et de façon aussi à montrer finalement que chaque incarnation de genre est finalement une performance.
La leçon qu'on pourrait en tirer, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de textes délicieux au XVIIIe siècle, délicieux même quand ils sont libertins, pornographiques ou même diffamatoires, puisque ces personnages diffamés sont bien loin de nous. Alors, on peut les trouver odieux, mais parfois ils sont bien écrits et drôles. Et justement, les récits de vie diffamatoires ont parfois un charme. Bon, la comtesse des bars, par exemple, nous porte dans une sorte de monde où tout est bonheur pour le narrateur, où le narrateur est admiré pour sa beauté de femme. Et on a comme une sorte de rêve absolu, qui est aussi un rêve carnavalesque, et d'ailleurs, le carnaval même apparaît dans le texte. Et un rêve auquel les lecteurs étaient sensibles, je pense, à l'époque, sans s'y laisser prendre. En effet, dans ce genre de texte, figure souvent le thème du vrai et du faux. C'est-à-dire que souvent, en abîme, le narrateur s'amuse à nous faire comprendre qu'il mélange le vrai et le faux. Et dans l'histoire de la comtesse des Bars, à deux reprises, la comtesse des Bars nous explique qu'elle mélange les fausses perles et les faux diamants avec ses vrais bijoux. Parce que de toute manière, comme elle est la comtesse des Bars, on ne peut pas douter que tous les bijoux sont vrais. Or, ça, c'est exactement ce que font les gens de la littérature séditieuse. Et en fait, le lecteur s'amuse d'autant mieux qu'il sait qu'il s'agit d'une imposture. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait dans l'esprit quand on lit ce genre de texte. On peut aussi continuer à goûter la légende de l'abbé de Choisy en sachant que c'est une légende.
C'était La Fabrique d'un mythe avec Fabienne Kérou, James Johnson, Frédéric Charbonneau, Mathieu Brunet et Jean-Yves Vialeton. Lecture, Samuel Charles. Prise de son, Loïc Duros, Bruno Mourlan et Benjamin Vignal. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. L'abbé de Choisy, Visez légende travestie. Un documentaire de Camille Desombres, réalisé par Gilles Blanchard.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous écoutez France Culture.
L'histoire de la régie Renault commence à Boulogne-Billancourt tout simplement parce que la famille Renault y possède une maison.
C'est une entreprise, mais c'est aussi un symbole.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
La régie Renault a représenté davantage que les véhicules qui sortaient de ses usines.
Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine.
Quant à son fondateur Louis Renault, il a été le héros de la Grande Guerre, mais le paria de la Seconde, toute une saga que nous allons vous raconter ce dimanche dans Salle des Archives.
Salle des Archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une nouvelle série des visages de l'actu consacrée à Jordan Bardella.
Guillaume Herner.
Un nom qui incarne aujourd'hui l'avenir du Rassemblement National et peut-être plus encore.
Qui d'autre que nous pour redonner aux Français le droit de vivre dignement de leur travail et à nos entreprises le pouvoir de produire sans entrave.
On l'appelle le plan B, mais ce plan B pourrait très vite devenir un plan A.
Les visages de l'actu.